est un, comme vous le savez sans doute, un récapitulatif de notre salut, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. C'est tout de même pas mal. Alors, comme convenu donc, cette fois-ci, après une introduction au mois d'octobre et après le mois dernier, une introduction à la révélation du salut telle qu'elle figure cette révélation dans l'Ancien Testament, un peu ri avec l'histoire des Réphaïm, cette conception que les anciens se faisaient du Shéol. Puis on a vu que, petit à petit, par mode de maturation, la conception du salut avait évolué, d'une conception exclusivement conçue comme collectif, pour ne pas dire collectiviste, on est passé progressivement à une conception plus personnelle. Et puis, d'autre part, d'une conception qui ne concevait le salut que par mode de rétribution temporelle, une longue existence, la victoire sur ses ennemis, la santé, la fécondité, toutes sortes de biens matériels. Petit à petit, c'est un salut d'ordre beaucoup plus fin, un salut d'ordre spirituel, qui s'est imposé sous la plume des écrivains sacrés. Ce salut était dès lors conçu comme la communion d'avec Dieu, qui libère du péché, communion qui perdure après la mort, puis nous avons vu à la toute fin de la séance précédente que dans les livres intertestamentaires, ceux des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, et il était même question de lever le voile un petit peu, mais un petit peu seulement, sur la possibilité d'une résurrection de la chair à la fin des temps. Alors j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que cette conception seconde, cette conception ultime, d'un salut plus personnel, enfin personnel, et d'un salut d'ordre spirituel, avait un mal fou à s'imposer dans l'esprit et dans le cœur de chacun des Juifs. Il semble même que, à l'époque du Christ, pour être clair, elle n'était admise que par une minorité de Juifs. Deux indices en attestent. Le premier indice, c'est le sort qui a été réservé aux malheureux derniers prophètes, au pluriel. C'est sous leur influence, je l'ai dit à de multiples reprises, que la conception du salut avait progressé, et comment ? Or, la plupart d'entre eux ont été tout simplement zigouillés. Voilà, ils ont été massacrés, et par leur propre peuple, alors pour des motifs plus ou moins triviaux, mais en réalité, le problème de fond, le motif de fond qui a présidé à leur exécution, à leur rejet et à leur exécution, c'est qu'on n'accordait pas crédit à la prédication qui présentait une nouvelle manière de concevoir le salut. On voulait s'en tenir à la bonne vieille doctrine du salut du commencement du peuple élu. Et puis, il y a un autre indice qui montre que tout cela n'était pas vraiment admis à l'époque du Seigneur Jésus, c'est qu'on a dans l'Évangile d'innombrables controverses entre lui et les différentes écoles de pensée juives, je pense singulièrement aux pharisiens et aux sadducéens, qui montrent qu'on n'est pas du tout d'accord, que la bonne vieille théologie primitive était encore bien vivace. Les sadducéens, pour mémoire, ne croyaient pas en la résurrection, pas plus d'ailleurs qu'ils n'adhéraient à l'existence des anges. Le peuple, la plupart des élites, attendaient de Dieu une libération temporelle. Le salut des non-juifs était, alors, pas du tout admis par une bonne partie du peuple. La maladie, l'infécondité continuaient à avoir la mauvaise réputation d'être le signe évident qu'on était maudit de Dieu, autrement dit qu'on avait tout sauf le salut de sa part. Et dans un tel contexte, on comprend sans peine que la prédication du Seigneur lui-même a été fort mal accueillie. Alors, dans un premier temps, c'était le feu éphémère de son verbe, son verbe n'est pas du tout éphémère, mais l'effet de ce verbe sur le peuple, qui les a d'abord chauffés, on le voyait accomplir miracle sur miracle, on le voyait qu'il enseignait avec une autorité à nulle autre pareille, on était très émus de voir cet homme-là. On trouva de plus en plus probable d'ailleurs qu'il fût le Messie. Bon, et tout allait bien jusqu'à ce que Jésus, qui ameutait autour de lui des foules de plus en plus nombreuses et qui faisait miroiter un avant-goût de ce que pourrait être le déploiement total de sa puissance, en réalité renonça à ce que le peuple attendait de lui, qu'il s'empare du trône. Voilà. Donc plus le temps passait, plus ses paroles, plus sa conduite désarmait, en tout cas étonnait, la nature du salut qu'il proposait, on va voir de quoi il s'agit, mais en gros, on le sait parce qu'on connaît la suite de l'histoire, le pardon des péchés, la vie éternelle, tout ça lié à sa prétention exorbitante d'être pas seulement le Messie, mais davantage, si vous voyez ce que je veux dire, tout ça évidemment ont suscité la haine que nous savons et jusqu'à sa crucifixion. Alors il faut qu'on voit de plus près, même si nous en avons tous une idée déjà assez précise, de quoi il retourne, de quel salut on parle, de quel sauveur on parle dans le Nouveau Testament. Et on verra comment la tradition a ensuite déployé cette riche révélation contenue dans les évangiles et dans le reste du Nouveau Testament. Alors, je propose d'avancer en trois temps. Je ne ferai pas tout ce soir parce que ce serait trop long et on aura la séance prochaine et le retour dans notre bonne vieille crypte pour s'adonner à la suite de ces considérations. Et je vais d'abord voir ce soir, première partie, Jésus de Nazareth présenté comme unique sauveur. Dans une deuxième partie, nous verrons ce qu'apporte ce bienheureux sauveur, précisément. Et puis, dans une troisième partie, nous verrons comment il s'y prend pour nous sauver. Là encore, on a tous une idée là-dessus. Il y a derrière moi un crucifix. Les choses sont donc, semblent du moins, assez évidentes. Mais sachez qu'il n'en fut pas de même, tout au gré du progrès théologique. Au fil des siècles, les théologiens ont disputé, et parfois vertement, quant à savoir comment Jésus nous sauve. Alors, commençons par... aussi loin que possible. Je ne vous retiendrai pas une heure indécente, mais voilà, j'avance, et puis nous verrons bien. Alors, Jésus Nazareth, d'abord, unique sauveur. Pour ne pas rallonger l'enseignement de la dernière fois indûment, déjà long, je vous remercie encore de votre patience pour ceux qui étaient là, eh bien, je n'ai pas fait allusion à une figure qui pourtant prédomine tout l'Ancien Testament, il s'agit de la figure du Messie. C'est quand même étonnant que je ne vous ai même pas prononcé ce mot la dernière fois, ce nom. Ce Messie, c'est l'instrument dont Dieu se sert pour accomplir le salut au profit d'Israël. Bon. Le terme Messie, on est très fiers de qu'on a quelques lettres, donc je me permets de le faire devant vous. Enfin, je pense que vous connaissez ça. Messie, ça vient de Messia, ou Meschia, en hébreu qui signifie « celui qui a reçu l'onction » et qu'on traduit en grec par le mot « Christos ». Messia, Christos, Messie, c'est la même chose. Celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Alors, dans la mesure où, dans la première théologie juive, nous l'avons dit abondamment la dernière fois, le salut était d'abord conçu comme la libération à coup d'épée et avec moyennant l'aide du ciel qui pouvait mettre hors d'état de nuire les ennemis d'Israël, ceux qui mettaient en péril la vie des membres du peuple élu et donc qui risquaient de les projeter plus vite que prévu dans le malheureux Shéol. On était comme une espèce d'être blafard sans vie, je ne reviens pas là-dessus, les Réphaïm. J'espère que vous n'avez insulté personne de Réphaïm depuis la dernière fois, mais voilà. Et donc, dans la mesure donc où on concevait ce salut comme étant une libération politique et militaire, eh bien, on s'était fait à l'idée que le fameux oint du Seigneur, le fameux instrument du salut, c'était une personne humaine, choisie par Dieu, revêtue de sa puissance, vous voyez ce que je veux dire, puissance très terre-à-terre, pour que le peuple élu puisse être libéré de ses prédateurs. Ainsi, on a désigné le roi d'Israël sous le nom de Messie. On a reconnu dans le roi d'Israël le Messie de Dieu. Mais ce n'était pas le seul à porter ce titre, puisque plus tard, le grand prêtre au temple porta lui aussi le titre de Messie. Et puis il y a encore une troisième catégorie de personnes, mais vous devinez, puisque roi, prêtre, troisième catégorie de personnes qui également reçurent le titre de Messie, c'est évidemment les prophètes, ou du moins certains d'entre eux. Tout ce monde-là œuvrait pour le bien d'Israël, tout ce monde-là visait à empêcher qu'Israël soit écrasé sous la Macédoine. Et pour manifester leur condition messianique, pour manifester qu'ils étaient bien des élus de Dieu, eh bien, en public, on les revêtait de l'onction d'huile sainte. Ce qui faisait d'eux, du reste, des êtres intouchables, auxquels on prêtait des vertus divines. Et si l'on s'aventurait à commettre un crime de lèse-majesté à l'égard d'une de ces trois personnes, eh bien, la foudre du ciel descendait. Il y a quelques passages de l'Ancien Testament qui sont là-dessus, pas piqués des hannetons. Voilà. À l'époque de Jésus, le problème était que ces trois charges de prêtre, de prophète et de roi, donc ces trois types de messie, étaient très mal en point. Parce que les prophètes avaient été massacrés, comme pour le motif que je viens d'évoquer, leur théologie n'avait pas l'heure de plaire à Israël, qui était rivé sur sa bonne vieille théologie temporelle et collectiviste. Le grand prêtre, ben, ma foi, Israël rencontra d'éminents dans les siècles précédents, mais enfin, aux alentours de la naissance du Christ, à quelques rares exceptions près, on avait sur au poste de grand prêtre une personne qui était là parce que les coteries avaient fait en sorte qu'il fût là. Des charges dont on héritait familialement, et voilà, c'est un peu comme la papauté, enfin une partie de la papauté baroque, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il fallait qu'on naisse Borghèse, Farnèse ou autre colonne là, pour pouvoir prétendre au souverain pontificat. Je ne dis pas que le bon Dieu ne s'est pas servi, il n'est pas passé outre et n'a pas permis à de bons papes de régner. Enfin, bon, c'était un peu le même système, un système de coterie, ce qui n'est évidemment pas la logique première du choix du grand prêtre. Et puis, quant à la charge royale, et là, c'est le désastre est le plus évident, puisque il n'y avait plus du tout de descendant de David sur le trône, puisque les Romains avaient placé sur le trône un fantoche qui, après moult supplications, s'était vu attribuer cette province crottée de l'Empire, la Judée. Et voilà, c'est donc une dynastie qui n'a rien de juive, puisqu'elle est asmonéenne, elle est iduméenne, elle est arabe, et c'est la dynastie des Hérodes. Donc, dans ces conditions-là, on peut comprendre, puisque ces trois charges messianiques étaient mal en point, que l'attente d'un véritable Messie avait un surcroît de vigueur. Elle était même plus forte que jamais. Du fait qu'il était annoncé comme fils de David par les prophètes, on continuait à penser que ce Messie serait non seulement du sang de David, mais qu'il en aurait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un chef militaire, un roi glorieux, et tout le toutim que vous connaissez à ce bon roi David, et qu'il allait briser le joug romain, virer cette dynastie hérodienne qui n'avait rien à faire sur le trône. Mais dans les rangs des Anaouim, l'attente messianique était bien plus droite, bien plus belle. Les Anaouim, ce sont les pauvres de Dieu. Ce sont tous les humbles qui sont qualifiés de justes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Joseph le Juste, par exemple, c'est Jean-Baptiste et sa famille, c'est bien sûr la Sainte Vierge Marie, c'est encore moult personnes, heureusement, qui constituent néanmoins une minorité dans le peuple et qui sont des personnages mystiques, qui vivent profondément des enseignements prophétiques. Eux n'auraient jamais levé la main sur les prophètes, même si la théologie prophétique nous prend toujours à rebrousse-poil. Vous voyez, les Anaouim. Alors ceux-là, ils avaient une attente messianique qui était beaucoup plus spirituelle. Et nous avons un bel exemple de, néanmoins, ils avaient une attente beaucoup plus spirituelle, mais qui n'était quand même pas totalement dépourvue d'attentes temporelles. On attendait évidemment quelqu'un qui ferait du bien au plan spirituel, mais s'il pouvait, nonobstant, faire un peu de bien au plan temporel, ce ne serait pas plus mal. Venger le sang des pauvres, nos frères, voilà. Mais enfin, c'était essentiellement une attente d'ordre spirituel, un messie de nature spirituelle. Il y a un très bel exemple de cette attente des Anaouim dans le fameux Benedictus, le cantique de Zacharie, celui qu'aimait le prêtre Zacharie, après, non pas la naissance, mais la circoncision de son fils, donc 8 jours plus tard. Je vous en rappelle quelques versets significatifs. « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël », vous connaissez ça, « il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur », jusque-là, rien de nouveau, « pour nous sauver de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent ». Là, on est dans la veine du salut temporel. Vous voyez, tout ça est assez mêlé. Mais néanmoins, « pour que nous le servions en justice et sainteté tout au long de nos jours ». Le Messie a pour objectif, certes, si possible, d'écarter nos ennemis temporels, mais aussi et surtout de nous rendre justes et saints, afin que nous puissions, dans cet état, être de bons serviteurs pour Dieu. Ensuite, il s'adresse à son fils, « Et toi, petit enfant, il s'agit de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, comment ? Par la rémission de ses péchés. » Donc le salut, dont le Messie sera l'instrument, a pour étape la rémission des péchés, afin que nous soyons saints et que nous puissions vivre en présence de Dieu, le servir convenablement. Vous voyez, donc Jean-Baptiste est chargé d'annoncer, et son père là-dessus est prophétique, doit annoncer que le salut opéré par le Messie consistera d'abord et avant tout en une remise des péchés. Alors cette spiritualisation de l'attente messianique était favorisée du fait que, sous la plume des prophètes, ou plutôt pour les prophètes, on aurait plutôt parlé de la bouche, dans la bouche des prophètes, eh bien, l'avènement de 2 autres figures emblématiques était annoncé, deux personnalités emblématiques qui avaient une fonction, là pour le coup c'était clair, d'ordre spirituel seulement. Ces 2 figures emblématiques, vous les connaissez au moins de nom, c'est le Fils de l'homme et c'est le serviteur souffrant. Le Fils de l'homme, il est annoncé dans le livre de Daniel, au chapitre 7e. Il s'agit d'un être mystérieux dont on ne sait pas très bien d'où il vient, qui est, Daniel nous dit, comme un Fils d'homme. Il a une apparence de Fils d'homme qui, descendant des nuées, c'est quand même assez surprenant pour un homme, doit recevoir la royauté universelle et procéder au jugement ultime à la fin des temps. Ça va pour le Fils de l'homme, un être dont on ne sait pas très bien d'où il vient, enfin il descend du ciel, de quelle nature il est, comme un Fils d'homme. Et il doit recevoir une royauté universelle et exercer un jugement ultime. Et puis le serviteur souffrant, là pour le coup je pense que vous êtes plus familier avec lui, parce que c'est vraiment la figure clé du temps de carême, et notamment du temps de la Passion. Il est annoncé par Isaïe, bien sûr, et il a vocation, ce serviteur souffrant, à rassembler le reste d'Israël, et ça c'est tout à fait singulier, d'où son nom de souffrant, il rassemble le reste d'Israël en offrant sa vie en expiation pour les péchés du peuple. Le fruit de son sacrifice sera la réalisation d'un règne de paix qui attirera toutes les nations. Donc, dans la figure du Fils de l'homme, comme dans la figure du serviteur souffrant, il y a une dimension universelle. On rassemble Israël, on juge Israël, mais par-delà Israël, c'est toute l'humanité en réalité qui est, à qui est apportée la paix, à qui est apporté le jugement, à qui est apporté le salut. Ça va ? Et ça, c'est très nouveau quand même. C'est dans les derniers siècles qu'on a l'annonce de ces deux figures-là, parce que la dimension universelle n'a rien de juif historiquement. C'est même l'inverse de ce qu'on voit à peu près dans tout le reste de l'Ancien Testament. Alors, à l'époque où Jésus menait sa vie de prédicateur itinérant, les juifs n'étaient toujours pas parvenus à comprendre, je n'arrête pas de me répéter, mais tant pis, que le Messie, le Fils de l'homme et le serviteur souffrant étaient une seule et même personne. Pour eux, c'était la figure messianique au-dessus de tout. Et puis, il y avait peut-être des adjuvants, enfin des personnes très étonnantes, le serviteur souffrant et le Fils de l'homme. Et ils n'avaient toujours pas compris que la mission de ces trois-là était une mission spirituelle. Et il a fallu que Jésus explique tout ça, qui était pourtant contenu plus qu'en germe, dans certains passages de l'Ancien Testament, dans les derniers livres notamment. Alors, il s'y est employé tout au long de ses ministères, à montrer que c'est une seule et même personne que le Messie, le serviteur souffrant, et le Fils de l'homme. D'abord, dans la première prédication dans la synagogue de Nazareth, souvenez-vous, c'est au début de l'évangile selon saint Luc, Jésus reprend à son compte un passage du livre d'Isaïe qui fait allusion justement à la figure du serviteur souffrant. Et il insiste sur le caractère messianique de ce serviteur souffrant, et il s'impute à lui-même cette personnalité. Déroulant le livre, Jésus trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il s'agit du serviteur souffrant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». Tiens donc, c'est le Machia, le Messie, dont il est question, et qui est le même que le serviteur souffrant. Pourquoi donc est-ce qu'il m'a consacré par l'onction ? Bien, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer la délivrance aux captifs et aux aveugles le retour à la vue. Il m'a envoyé renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Jésus conclut cette lecture qu'il vient de faire en disant « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture ». Autrement dit, le serviteur souffrant qui est en même temps le Messie, c'est moi. J'allais dire c'est Bibi, mais voilà, Jésus avec un B majuscule. Voilà. Ça, c'est pour le serviteur souffrant, messianique. C'est bien Jésus. Et puis, lors de l'appel de ses premiers disciples, du moins tel qu'il est raconté au début de l'évangile de saint Jean, vous savez, avec cette traînée de poudre, André et Jean qui vont, sur les instances de saint Jean-Baptiste, suivre Jésus. Jésus qui se retourne, que cherchez-vous ? Maître, demeures-tu ? Venez et voyez, etc. Le lendemain, André va trouver son frère Simon-Pierre, il lui dit « Nous avons vu le Messie », etc. D'accord, Pierre arrive, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que les premiers disciples s'agrègent autour du Christ. Eh bien, à la fin de cette rencontre, une fois qu'il a un petit peu ramené Nathanaël dans le droit chemin, de Nazareth, que peut-il sortir de bon ? Dit-il quand Jésus n'est pas encore là, parce qu'évidemment il adopte d'autres mœurs en présence du Seigneur. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà, il y a un prophète. Et Jésus lui dit, ainsi qu'aux autres apôtres, premiers apôtres, donc le ciel, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc là encore, là on comprend qu'il est. Il s'attribue à lui-même la qualité de fils de l'homme. Donc il est le serviteur souffrant, ça il le dit lorsqu'il commente Isaïe lors de sa première prédication dans la synagogue de Nazareth. Il est le fils de l'homme, il le dit dès l'appel des premiers disciples, et il ne cessera de se qualifier de cette manière. C'est assez surprenant que Jésus ne passe pas son temps à dire « Je suis le fils de Dieu, je suis le fils de Dieu ». Mais il dit le fils de l'homme, il parle à la troisième personne, il se désigne lui-même comme étant le fils de l'homme. Sous-entendu, si vous voulez comprendre qui je suis, allez voir les prophéties de l'Ancienne Alliance qui parlent de moi, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et quant au titre de Messie, alors là, Jésus ne rabroue pas ceux qui l'utilisent pour le qualifier, mais il est en même temps le Seigneur, j'espère ne pas, c'est toujours difficile de faire la psychologie de Jésus-Christ, mais oui, j'espère ne pas m'égarer, mais enfin, il me semble bien que Jésus fait très attention lorsqu'il emploie la notion de Messie, le terme de Messie, pour se dénommer lui-même, pour se qualifier lui-même. Pourquoi ? Ben c'est simple, je l'ai dit auparavant. Dans la mesure où la plupart des Juifs se font du Messie une conception très temporelle, le fils de David qui va monter sur le trône, écarter la dynastie qui n'a rien à faire sur le trône, mettre dehors les Romains, remettre de l'ordre dans le pays, quoi, voilà, et puis punir les pécheurs au passage, enfin bref. Se qualifier soi-même de Messie, ce serait risquer que le peuple se trompe sur la nature de sa mission. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il est clair dans la tête du peuple que Jésus est le Messie, il y a toujours un risque qu'on cherche à mettre la main sur lui pour le faire roi. Un passage fameux, c'est celui du discours du pain de vie, enfin la multiplication des pains plutôt, suivra le discours du pain de vie, où Jésus, il nous a dit, Jésus, sachant que le peuple voulait le faire roi, ben, tu parles, celui qui est capable de multiplier du pain comme ça pour tant et tant de mille de personnes, ça vaut le coup. Celui-là, il faut le mettre non seulement ministre de je ne sais quoi, de l'approvisionnement, de l'économie et de je ne sais quoi, mais il faut carrément en faire 23. Ça va être Panem Circenses, mais toute l'année. Quoi. Et puis attention, les jeux romains à côté, c'est rien. Oui, mais Jésus, voyant qu'on voulait le faire roi, s'en va dans la montagne. Même chose, plus tard, lorsque, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, juché sur le dos d'un petit ânon, les manteaux sous cet ânon et les palmes qui viennent presque jusqu'à sa figure, j'imagine les choses ainsi, on l'acclame, Hosanna au fils de David, etc., le Messie, quoi, en gros, puisque le Messie est fils de David, Jésus se rend bien compte du danger qu'il court à laisser le peuple croire qu'il est venu pour une marche sur Jérusalem, comme il y eut plus tard une marche sur Rome. Voilà. Vous comprenez pourquoi le titre de Messie est rarement revendiqué par Jésus. Beaucoup plus celui du Fils de l'homme. Quant au serviteur souffrant, je crois qu'il n'a même pas besoin de parler, il en vit, et de plus en plus jusqu'à l'abaissement suprême sur le bois de la croix. Mais Jésus ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ne se présente pas seulement comme étant à la fois le Messie, le Fils de l'homme et le serviteur souffrant. Il fait un pas de plus, enfin, c'est un euphémisme, puisqu'il revendique d'être l'égal de Dieu. Alors là, pour le coup, c'est sans ambiguïté. Et c'est même de plus en plus clair à mesure qu'on parcourt l'Évangile, c'est-à-dire à mesure que la vie publique du Christ touche à son terme. Je n'évoque que les passages les plus fameux du Nouveau Testament, enfin des Évangiles, les affirmations du Christ en Jean chapitre 8. C'est absolument on ne peut pas, sauf à expurger ce chapitre-là, à se dire que vraiment c'est une relecture, je ne sais quoi, post-pascal, etc. Enfin, tout ce qui, bon, les exégètes qui de mauvaise foi vous raconteront ça. Oui, je veux bien qu'il y ait une relecture post-pascal des événements, puisque par définition les évangiles ont été couchés sur le papier bien après cet événement pascal. Mais enfin, Saint Jean raconte ce qu'il a entendu tout de même. Et par trois fois, dans ce chapitre 8 de Saint Jean, qui est assez concis, Jésus emploie une expression qui est sans ambiguïté. Il dit « Je suis ». Et il n'ajoute pas. D'habitude, il ajoute « Je suis la lumière du monde, je suis le pain vivant descendu du ciel, je suis la voie, la vérité, la vie, je suis la résurrection, etc. » Là, on dit que ce sont des « Je suis absolus ». Pour ceux qui veulent faire les traits, on dit les « Ego eimi », c'est en grec, ainsi qu'on dit « Je suis »,« Ego eimi », absolu. C'est un clair renvoi à cette affirmation de Dieu en Exode 3.14, dans l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse, en gros, demande à Dieu comment il aura l'oreille du peuple lorsqu'il reçoit la mission de prendre sa tête pour quitter le joug de Pharaon et rentrer en terre promise. Tu leur diras « Je suis ». Et à ces mots, Moïse se retrouve face contre terre. « Je suis ». Il leur dira « Je suis ». Donc, lorsque Jésus emploie cette expression-là, dans la tête des Juifs qui l'écoutent, il n'y a pas à tortiller, c'est une revendication clairement divine. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ou encore, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et puis enfin, et là c'est l'acmé de la haine contre lui, on prend des pierres pour le lapider, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes des fils d'Abraham, c'est la fierté du juif est d'être fils, fille d'Abraham. Ah ben là, hop là, voilà le Christ qui va un tout petit peu plus loin, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez, ça, c'est le moment le plus clair où Jésus revendique sa divinité, sa condition divine, devant ses opposants qui commencent un petit peu à le picoter. Enfin, que le Seigneur me pardonne si ce n'est pas le cas, mais on sent que l'ambiance est légèrement tendue, évidemment de tristesse, d'amour éconduit, parce que Dieu n'est pas, le Christ n'est pas un homme violent qui veut faire prévaloir ses vues, enfin, qui serait saint. Non, c'est vraiment, il voit le peuple refuser ce pour quoi il a été constitué depuis tant de siècles, accueillir celui qui vient les sauver, accueillir Dieu. Voilà. Encore d'autres passages, au chapitre 10e, du même évangile selon saint Jean, c'est décidément là qu'on trouve beaucoup de très belles choses, eh bien, les juifs sceptiques lui demandent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Notez qu'on est au chapitre 10. Les « ego eimi absolus », les « je suis », qui ne laissent pas de place au doute, sont au chapitre 8. Donc, si on suit la chronologie, peut-être... On peut faire crédit à saint Jean d'avoir adopté quand même une chronologie d'ensemble, il leur a déjà annoncé sans ambiguïté sa divinité. Mais voilà que ces imbéciles lui disent « Mais jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine si tu es-tu le Christ, quoi ?» Non mais attendez les enfants, je viens de vous dire que je suis Dieu. Donc qui peut le plus, peut le moins. Enfin bon, c'est pas comme ça que Jésus leur parle, bien sûr, mais c'est quand même... Voilà. Et que leur répond Jésus ? Des choses qui vont là encore susciter la colère, parce qu'elles sont très claires. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jusque-là, les pharisiens qui s'opposent à lui, qui lui ont posé la question, peuvent se dire « Bon, voilà, c'est un gars qui s'enflamme, il a un peu de succès, mes brebis, mon fan club, quoi. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Ça va. » Sauf que le Seigneur ne s'arrête pas là. « Je leur donne la vie éternelle. » Là, ça commence un peu à piquer. « Elles ne périront jamais. » Si, tous nous savons une chose, nous sommes voués à la mort. Ah oui, non. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Ah bah, attends de voir. Ah bah. Et oui, je taperai le berger et les brebis seront dispersées. Ils connaissent ça. Hein. Et il ajoute, pour que les choses soient bien claires, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi et moi dans le Père. Ah, l'auditoire est évidemment subjugué de deux choses l'une. Quoi. Soit cet homme-là est complètement fou, et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on doit, soit il a raison. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on doit. Voilà, donc. Et puis, à ses intimes, il dévoile encore plus largement la nature, enfin sa nature divine, dans les somptueux échanges qu'il a avec eux, enfin, plus que des échanges, en fait, c'est un enseignement du discours d'adieu, d'après la scène, dans les chapitres 14 à 16 de saint Jean, et dans la prière sacerdotale qui suit, c'est-à-dire après avoir enseigné ses apôtres sur les mystères de son unité avec son Père, il s'adresse directement au Père, et voilà ce qu'il dit, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Voilà. Très bien. Il scelle l'enseignement de quelques années de vie publique, en même temps qu'il scelle son sort. Se prétendant Dieu, il est blasphémateur et on doit le mettre à mort. Sauf qu'à l'appui de cette prétention, les activités de Jésus, l'agir de Jésus est tout de même assez éloquent, puisqu'il commet exorcisme sur exorcisme, qui montre son pouvoir sur les démons, mais à une cadence et avec une amplitude jamais vue. Il y avait déjà eu des exorcismes dans l'Ancienne Alliance, mais enfin là tout de même, on atteint une acmé. D'autre part, des guérisons, mais des guérisons, on a l'impression, quand cet hémorroïde vient à lui dans la foule, vous savez, si seulement je touche la frange de son vêtement, alors c'est sûr, je serai guéri, la pauvre femme, elle en pouvait mettre, quoi. Et Jésus est oppressé par la foule et il dit quelqu'un m'a touché. C'est l'apôtre le rigole un peu et le blague, quoi. Mais quelqu'un t'a touché. Mais oui, enfin, t'as vu la foule compacte, on a déjà du mal à te faire un peu de place, donc effectivement, que quelqu'un t'a touché, c'est même quelqu'un en pluriel. Non, mais j'ai senti une vertu sortir de moi. J'ai senti une vertu sortir de moi. C'est quand même incroyable. C'est comme si Jésus, ça n'est pas le cas, mais on a l'impression que, à s'en tenir à la lettre du texte, que Jésus accomplit des miracles sans même s'en rendre compte, quoi. C'est quand même très rare. Je ne sais pas s'il m'arrivait de faire des miracles, ça me... Enfin bon, alors, si certains d'entre vous ont l'habitude de faire des miracles sans trop s'en rendre compte, je suis très intéressé par le récit. Alors, et puis ces guérisons, le Christ va encore plus loin, puisqu'il va jusqu'à ressusciter trois morts, qui montrent son pouvoir, donc sur la maladie, sur la mort. Il remet en outre les péchés. Et ça, pour le coup, c'est un privilège strictement divin. Et il les remet, figurez-vous, en son nom propre. Il ne dit pas « Dieu te pardonne » ou « il n'implore pas la miséricorde divine ». Non, non. « Je te pardonne tes péchés. Tes péchés te sont remis. Va et ne pêche plus. » Bon. Alors, et puis comme pour couronner le tout, comme si tout cela ne suffisait pas, Jésus se présente comme étant le seul sauveur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas compliqué. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Voilà. En permanence, c'est ça. Celui qui construit celui qui écoute la parole de Dieu, ma parole, puisqu'ailleurs, il dit que sa parole n'est pas la sienne, mais celle du Père. Donc la parole divine qui émane de lui, celui qui s'aventurerait à ne pas la mettre en pratique, construirait sur le sable. Sa maison s'écroulerait, tandis que celui qui écoute la parole qui émane du Verbe incarné et qui la met en pratique construit sa maison sur le roc. Tout peut déferler, la maison tient. C'est quand même, enfin, il faut se mettre à la place des contemporains du Christ qui n'ont pas encore acquis la certitude qu'il était vraiment qui il prétend être, enfin, n'ont pas eu le témoignage encore de la résurrection du Christ. Nous avons en plus 2000 ans de témoignages constants. Et voilà, de toutes sortes d'éléments de preuve concomitantes ou qui concourent. Bon. À l'époque, entendre quelqu'un dire ça, c'est tout de même tout à fait affolant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Imaginez quelqu'un qui vient, qui vous dit ça, il a intérêt à avoir quelques arguments tout de même. Voilà. Et ayant fait l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ, enfin, l'ayant vu mort, puis sorti du tombeau, bien, ces apôtres, et puis les évangélistes, n'auront de cesse de prêcher que Jésus est bien le seul sauveur. Là encore, je me contente de quelques assertions. Le bon Thomas, dont chaque année il est bon ton, l'octave de Pâques, le dimanche in albis de la miséricorde, Quasimodo, ce que vous voulez, de dire oh, quand même, Thomas, un des apôtres, toi, un des douze. Ouais, enfin, bon, le bon Thomas, dont rien ne nous dit qu'il a touché vraiment, comme l'y invitait le Christ, les plaies glorieuses, le bon Thomas tombe par terre et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parfaite confession de foi. Voilà. Alors bon, il a été un peu aidé, mais tout de même. Voilà. Le prologue de l'évangile de Saint Jean, que j'ai lu pour commencer, enfin dont j'ai lu une grande partie en commençant, là aussi, qui atteste que Jésus est bien celui qui était au commencement auprès de Dieu, qui d'ailleurs y demeure, par qui tout a été créé, qui est venu dans ce monde, qui est venu chez les siens n'ont pas reçu, etc. Voilà. Et de lumière et de verbe qu'il était, eh bien, il s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous. C'est ce que dit le texte si on le prend au pied de la lettre. Il a habité ou il a demeuré parmi nous, c'est il a planté sa tente parmi nous. C'est émouvant quand même. Ça dit la fragilité de la condition qu'il a accepté d'épouser pour notre bien propre. Saint Pierre devant le Sanhédrin, c'est pareil, sans détour, on est au début des Actes des Apôtres, chapitre 4e. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus-Christ. Bon, il sait très bien que disant cela, il risque d'avoir lui aussi, à la suite de celui qu'il annonce, quelques petits problèmes. Ça ne manquera pas, mais pas tout de suite. Voilà, pour l'heure, il sera juste embastillé. C'est déjà pas mal. Voilà, et puis alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le prologue de la lettre aux Hébreux, chapitre 1er, hein, quand vous n'avez pas trop le moral, je vous invite urgemment à aller relire le prologue de Jean, et vous me direz, oui, mais tout ça est un peu théorique, peut être un trait théologique, un peu abstrait, tout. Je pense que ça paraît très concret, le verbe s'est fait chair, etc. Mais encore, le prologue de la première épître de Saint Jean, première lettre de Saint Jean, hein, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, etc., du verbe de vie, nous en témoignons, hein, pour que votre joie soit complète. C'est magnifique. L'Écriture a été écrite justement pour notre instruction et notre consolation. C'est ce qu'il y avait dans la première lecture, pour une fois, dimanche dernier, pour une fois ça concordait dans la forme extraordinaire comme dans la forme ordinaire. Voilà, donc je renvoie les uns les autres aux missels qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Voilà. Et puis il y a cette lettre aux Hébreux, je lis. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés. Voilà pourquoi il est venu, purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Fin de citation. Quand même, ça a de la gueule, quoi. C'est-à-dire, c'est majestueux, et dans la prière, je pense qu'on peut faire son miel de cela lorsqu'on est un peu triste. Ou un peu, ça ne suffit pas, je suis d'accord, on ne va pas de placebo. Je veux dire, enfin, il s'agit de la parole de Dieu, quand même. C'est pas un simple placebo, et c'est pas de la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, quoi. Enfin, je réduis pas les méthodes Coué, je vais bien, tout va bien, quand même. Mais bon, voilà. Voilà donc ce qui est nouveau dans le Deuxième Testament, comme l'appelait Bossuet, par exemple. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus manifeste que le Messie, le Fils de l'homme, le serviteur souffrant, c'est tout un, et que ce tout un, c'est lui. Il va plus loin, il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, revêtu de sa puissance, et à ce titre, le seul sauveur. Je suis la porte, encore une fois, une chose que j'ai oubliée, parmi les différentes dénominations. Quiconque entre par moi, etc. Mais celui qui s'y refuse. Voilà. Ce bon Jésus, maintenant qu'il est établi, enfin, je n'établis rien du tout, mais je rappelle simplement à votre mémoire ces belles assertions-là. Qu'est-ce qu'il vient nous apporter? En fait, il vient nous apporter l'Évangile. D'accord, vous avez bien fait de vous déplacer. Evangelion, vous savez, en grec, ce que ça signifie, ça signifie bonne nouvelle. Sachez que c'est une expression qu'on utilisait à la naissance de chaque empereur dans la Rome antique. On utilisait une formule rituelle qui est la suivante. La divine providence, on dirait que c'est un truc chrétien, mais pas du tout. La divine providence nous a suscité un sauveur. Aujourd'hui commence l'évangile qui nous apporte. Voilà. Alors, l'Église, comme souvent d'ailleurs, sans vergogne, s'est emparée de ces formules rituelles parce qu'elles convenaient tout à fait pour qualifier le Christ et son enseignement et son agir, qui sont en effet une bonne nouvelle. Comment la bonne nouvelle par excellence, puisque Jésus est le sauveur d'une manière autre, de manière autrement efficace que la totalité des emplois réunis, et bien plus encore. Alors, quel est ce salut que vient nous apporter Jésus? Eh bien, ce salut a deux aspects, deux dimensions qui sont inséparables. Un versant ténébreux, si je puis dire, et un versant lumineux. Le versant ténébreux, c'est évidemment, il vient nous libérer du mal. Il vient nous libérer de Satan, il vient nous libérer du péché, il vient nous libérer de la mort. Toutes choses sur lesquelles je vais revenir. Et puis versant lumineux, enfin c'est déjà assez lumineux de se faire libérer du péché quand même, mais versant encore plus lumineux, eh bien il vient nous offrir en outre rien moins que la divinisation, la déification. Alors je vais détailler successivement ces deux aspects du salut qui sont complémentaires, la libération du mal et la divinisation. En essayant de montrer comment... ce soir, je pense que je n'aurai le temps que de développer la libération du mal. Je suis désolé, hein, je vous laisserai sur... Enfin, c'est quand même assez réjouissant. Mais le plus beau viendra la prochaine fois. L'expérience du mal, c'est vraiment d'un commun, ce que je vais vous dire, est l'expérience universellement faite par toutes les créatures, du moins qui sont douées de sensibilité, les animaux, les hommes. Mais il est propre à l'être humain, néanmoins, d'être frappé par ce fait du mal d'une manière particulièrement douloureuse. Parce que nous sommes doués d'une intelligence qui essaye de comprendre, qui essaye d'analyser le réel, et que cette intelligence devant le mal sait se trouver devant un mystère et n'arrive pas à expliquer le mystère du mal. Il y a toujours d'ailleurs un danger à vouloir rendre compte du mal, à vouloir expliquer le mal. Vous savez, les philosophes, à mon sens, les philosophes les plus tordus, désolé pour eux, mais je ne donne pas de nom, mais sont ceux qui, à force de vouloir rendre compte du mystère du mal, à force de vouloir le mettre en lumière, et si possible totalement, deviennent complètement fous. Ou alors, complètement déprimés, mais pire encore, ils finissent par mettre fin à leur jour, c'est clair, il y en a quand même pas mal comme ça, ou sont comme fascinés par le mal. Il y a quelque chose de très dangereux dans le fait de vouloir décortiquer le mal. Alors vous direz, pourquoi le faisons-nous ce soir? Parce qu'on est dans une église, tout va bien. Nous, on le fait sous l'éclairage de la révélation. C'est-à-dire fort de ce que Dieu nous révèle quant au mystère du mal. C'est bien, en fait, dans cette pièce, il n'y a pas de chauffage. Enfin, dans cette église, ou très peu. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, cher Guillaume. Mais du coup, ça maintient en éveil, j'aime bien ça. Alors, voilà. Alors... Si cependant vous vous endormez, je vous prendrai très mal. Alors, devant cette... il y a deux formes de mal que je distingue d'emblée. Peut-être connaissez-vous ces dénominations, elles sont celles de la théologie classique. Le mal de peine et le mal de faute. En fait, c'est déjà une dénomination philosophique. Le mal de peine, c'est celui qui est subi, c'est celui qui advient lorsque la maladie s'abat, lorsque des cataclysmes se déclenchent, lorsque des deuils, etc. Lorsque toutes sortes de malheurs auxquels on ne peut pas imputer la faute de quelqu'un s'abattent. C'est pas exactement ça, mais bon. De toute façon, c'est pas le mal de peine qui va m'intéresser ce soir, c'est l'autre mal qu'on appelle le mal de faute. Pour le coup, c'est ce qu'on nomme communément le péché. C'est celui qui implique une volonté appliquée, voilà, la commission délibérée d'un acte mauvais. C'est ça, le mal de faute. Donc je ne vais m'intéresser ce soir qu'au mal de faute. Je laisse les cataclysmes, les deuils, voilà. Alors, toutes sortes de réponses ont été forgées par l'intelligence humaine au gré des siècles, même des millénaires, pour essayer d'expliquer l'existence de ce mal de faute, l'existence du péché. Je cite quelques écoles, parmi d'autres, toutes les formes de dualisme, d'abord, tel le manichéisme, dans lequel a d'abord sombré saint Augustin, avant d'en sortir, heureusement, qui estime que l'état du monde, qui est un bien mêlé de mal, ça d'accord, tout le monde est d'accord avec ça, mais s'explique, et c'est là que le bât blesse, par la coexistence de deux principes, deux divinités, si l'on veut, dont l'une est bonne, créatrice des esprits, et dont l'autre est mauvaise, créatrice de la matière. À charge pour l'être humain de s'affranchir de la matière, enfin d'être dans le bon camp, quoi. Dans celui de l'esprit, et non pas sous la houlette de la bonne divinité, et non pas dans le camp du mal, c'est-à-dire enfoncé dans la matière. Ben, vous voyez à quels abus peut mener une telle théorie, espèce de théorie néoplatonicienne pas du tout en place. Les pires conséquences sont advenues probablement sous le règne des cathares. Pour ceux que ça intéresse, vous renvoie à quelques émissions bien faites là-dessus, avec le suicide rituel qui permettait quand même de s'affranchir de la matérialité, avec le fait de refuser d'engendrer, parce que quand on engendre, il y a un nouveau petit homme qui naît, il est constitué notamment de matière. Ah, mais donc, ça veut dire qu'on donne un surcroît de puissance à l'empire de la matière. On donne un terrain de jeu à la divinité mauvaise. Vous voyez le genre de choses dangereuses, voilà. Donc, non, cette explication de deux principes coexistants, un bon, un mauvais, avec l'être humain qui est un peu le jouet des deux, ça ne convient pas. Il y a une autre thèse à tendance plus scientifique, une pléiade de thèses qui ont à peu près la même logique. Je dis bien à tendance scientifique, je ne dis pas que c'est scientifique, hein, qu'on ne se méprenne pas. Selon laquelle, l'école, le mal commis par l'être humain serait une péripétie, certes coûteuse, douloureuse, révoltante, mais au fond inévitable, parce qu'elle serait due aux échecs de l'évolution, échecs passagers. Vous voyez, et voué à s'estomper à mesure que l'humanité sort de son animalité primitive pour aller vers un état plus évolué. Voilà. Je me rappelle avoir lu, quand j'étais à la fac, un livre au titre très évocateur, « La civilisation des mœurs ». En Occident, c'était. Norbert Elias, un sociologue. Je grossis le trait, mais c'était typique du mythe du progrès, si vous voulez. Vraiment, pauvre être humain de l'aube des temps, mais nous, vraiment, à force d'institutions internationales, à force de contrats, à force de contraintes aussi, comme nous sommes évolués, vous voyez. Ça me paraît tout à fait le mal à la limite, on pense que demain, un jour, le péché aura disparu, le mal de faute aura disparu, parce que l'être humain sera suffisamment éclairé, voyez, il aura suffisamment mûri, ce bon descendant de Néandertal. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais il me semble pas. Voilà. Encore une fois, ça n'a rien de scientifique, c'est du scientisme. Hein. Pas du tout. C'est révoqué par les authentiques scientifiques, dont certains d'entre vous. Et puis il y a encore une autre école qui va essayer d'expliquer l'existence du péché, du mal de faute, avec des thèses à caractère psychologisante. Là encore, qu'on me comprenne bien, je ne m'en prends pas à la psychologie, mais à des gens matinés de psychologie, du moins le croit-il, qui affirme que le mal commis par l'être humain procède en réalité d'une faiblesse psychologique. C'est pas complètement faux, hein. Mais cette faiblesse psychologique est un peu universelle quand même. D'autre part, ça pourrait procéder d'une erreur de jugement due à un défaut de croissance. ou dû au fait que on a grandi dans une structure sociale inadéquate, comme on dit. Donc, on a grandi dans un milieu défavorisé, un peu obscurantiste, un peu... Voilà. Je ne dis pas que tous ces facteurs ne jouent pas. Ces facteurs jouent. Mais en faire le seul critère, si vous voulez, pour expliquer le mal qui a été commis, c'est tout de même un peu gros. Voilà. Toutes ces écoles-là, que ce soit l'école psychologisante que je viens d'évoquer, que ce soit l'école à tendance scientiste, là, où, qui vous explique que grâce au progrès continuel de l'espèce humaine, on va aboutir, hein, ou que ce soit le dualisme typique des manichéens ou des cathares, en réalité, toutes ces thèses-là identifient la racine du mal, au fond, autre part que dans le cœur de l'homme. C'est la faute à l'évolution, c'est la faute au principe mauvais qui s'oppose au principe bon, c'est la faute à la matière, quoi. C'est la faute au milieu social, la société a des problèmes, etc. Bon, très bien. C'est un peu rapide, quand même, comme explication. Voilà. Et puis, pour certaines thèses que je n'ai pas évoquées, on en vient même à imputer la responsabilité du péché au créateur lui-même, tant qu'à faire. Mais c'est assez fréquent, en fait. Je sais pas. Et ça peut être notre tendance aussi. Quand on retombe sans cesse dans les mêmes travers, alors qu'il nous semble avoir fait des efforts, et des efforts parfois considérables, on se dit, mais bon sang, c'est que je suis comme ça. Et si je suis comme ça, suivez mon regard, vous m'avez voulu comme ça, tu m'as voulu comme ça. C'est un peu vitement dit, quoi. Voilà. Alors, le peuple élu, heureusement, par rapport à ces différentes thèses, était largement au-dessus, quand même. Il avait joui de l'éclairage de la révélation, déjà, et donc, il était parvenu, d'abord, à innocenter Dieu du mal, du péché, de tout péché, et il était parvenu à identifier que le péché trouvait sa racine dans la créature, et seulement dans la créature. Il y a une remarque très pertinente, de toute façon, globalement, c'est quand même assez pertinent, le catéchisme de l'Église catholique. Il y a un passage qui est, je trouve le passage qui concerne, qui est assez abondant, qui concerne le péché en général, le péché originel en particulier, particulièrement lumineux. Parce qu'évidemment, c'est un sujet très houleux, disons, enfin, qui provoque beaucoup de contradictions, de critiques, d'une part et de l'autre, de tous bords. Et donc, c'était difficile de naviguer en tenant vraiment la fidélité à ce que l'Église enseigne, mais en exprimant les choses, me semble-t-il, de manière lumineuse, de manière, en tout cas, pédagogique. Et voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 386. Il dit que ce n'est que dans le contexte de la révélation divine qu'est dévoilé, dans lequel contexte on nous explique qu'il y a un lien profond entre la créature et Dieu. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est ça, la révélation, le fond de la révélation. C'est « je t'ai créé, je t'aime. Voilà. Et je ne te veux que du bien. » Eh bien, ce n'est qu'avec que dans ce contexte-là, qu'avec cette certitude-là, que le mal du péché est démasqué dans sa véritable identité. Le mal du péché ne vient pas de Dieu, enfin le péché ne vient pas de Dieu, il vient de la créature créée libre qui s'oppose sciemment au dessein bienveillant de son créateur. Et si on ne pose pas comme prémisse que la création est due à l'amour de Dieu et qu'elle a pour finalité l'amour, on ne va pas s'étonner trop du mal, en fait. Enfin, le péché, bon, c'est un truc selon les écoles que j'ai précitées, quoi. Dès lors qu'on pose qu'il y a une intimité entre Dieu et l'homme, que l'homme est absolument bienveillant, exempt de toute malice, d'où vient donc le fait que l'être humain commette le mal? Pas de lui, en fait. De l'usage mauvais de sa liberté qui lui a été donné par Dieu. Ça va ou ça, où le froid aidant, les neurones commencent à gripper. Ou alors, c'est peut-être ma bouche qui commence à gripper, mon esprit qui est un peu... Voilà. Le même catéchisme de l'Église catholique, qui insiste à nouveau plus loin, donc le numéro suivant, 387, c'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté. Le catéchisme ne fait que me citer, vous le voyez. Répétez ce que je viens de dire. Bon. Voyez, un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. De fait, quand on regarde l'Ancien Testament, qu'est-ce qui nous est enseigné ? Ben, dès le début du livre de la Genèse, les trois premiers chapitres, pour être plus précis, les choses sont claires. Dans le chapitre premier, le premier récit de la création, on voit que la création est sortie des mains de Dieu, exempte de tout mal. On a même cette affirmation récurrente de la part du Créateur, plutôt cette posture du Créateur, Dieu vit que cela était bon. C'est touchant d'ailleurs, quand on lit ce récit, on se dit, Dieu s'éblouit de son propre chef-d'œuvre, enfin, de sa propre création. Et alors quand advient le roi de la création et la reine, il vit que tout cela était bon, et même très bon. Alors là, on a de la chance. On est encore plus... on suscite davantage de joie à notre Créateur que les poissons, les arbres et l'immensité des tant mieux. Voilà. Donc, tout cela est bon. Il n'y a pas l'ombre d'un mal, pas l'ombre d'une malice. Tout est fait par un Dieu bon. Faisons l'homme et la femme à notre image et comme à notre ressemblance. Dieu étant parfaitement bon et créant par amour, ça veut dire que l'être humain est créé parfaitement bon et totalement aimant. Enfin, ça laisse rêveur quelques parents parmi vous, mais enfin, on est tous au même... Et voilà. Et puis, au chapitre 3e, donc, Genèse 3, eh bien, on voit que le dessein bienveillant de Dieu, sa prévenance à l'égard de la créature, tu peux utiliser mais tout ce qu'il y a là. Il y a une chose que je te demande de ne pas croquer, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
D'accord.
On connaît la suite. On pouvait utiliser tout, un truc. Et voilà que voilà, on s'est obnubilé comme un sale gosse sur cette seule chose-là, qui n'était pas bonne pour nous. Si tu en manges, tu n'en mangeras pas sous peine de mort, en plus. Voilà. L'espèce d'instinct suicidaire de l'être humain, je sais pas quoi. Et donc on découvre que Dieu est pure bienveillance, qu'il est en plus prodigue en bien, qu'il nous a fait don d'un univers magnifique, dont il y a quand même, il reste de très beaux vestiges, il faut bien le dire. La voûte étoilée par un ciel d'été, enfin une nuit d'été, c'est quand même somptueux, on peut rester là longtemps. Un paysage de montagne, la mer, enfin je sais pas ce que vous aimez, mais en fait, moi, j'aimerais bien descendre dans les bis un jour pour aller voir les. Enfin, je sais pas. Bon. Alors, les sous-marins, les U-boats échoués, non mais. Voilà. Et toutes les bestioles qui. Non mais, des bêtes qui sont là, qui n'ont, semble-t-il, d'après les experts, pas bougé depuis la nuit des temps, quoi. C'est quand même incroyable. Bon. Alors, de voir les contemporains, nos gros anciens, qui se portent très bien. Alors, voilà, donc, et on voit bien que c'est un usage mauvais de la liberté qui fait pénétrer le mal dans ce monde si beau. Et en plus, Dieu, dans sa grande bonté, avait donné à la femme un époux. Et vice-versa, bien sûr. Non, mais donc, cette bonté de Dieu allait, parce qu'il aurait pu nous faire, si vous voulez, individus, les uns côté des autres et tout. Non, il a voulu en plus que dans cette altérité de l'homme et de la femme puisse être consommée une complémentarité qui donne une fécondité, enfin tout ce que vous voyez en Genèse 1 quand même, dont on n'a pas fini de faire le tour quand même. C'est fécondité qui peut être charnelle, mais fécondité qui peut être qui peut aller au-delà, bien sûr. Et puis on retrouve au livre de Job la même logique. Dieu est innocenté du mal, c'est l'autre qui vient faire le malin devant lui, Dieu quand même qui donne l'autorisation, donc il y a quand même une autorisation de Dieu, mais voilà, la suite du livre montre que qu'en fait Job en ressort la tête haute, bon, la tête un peu vieillie, mais la tête haute. Voilà. Et puis on voit dans le livre de la Genèse comme dans le livre de Job, cette espèce d'influence néfaste que la créature libre peut avoir sur les autres. Non contente de pécher, elle aime bien, si ça peut se... elle peut être consolée par le fait que l'autre tombe avec elle. C'est quand même terrible. Bon, dans Genèse 3, c'est clair et net, hein. Je ne parle pas de qui a mangé du fruit en premier, blablabla, bon. Et puis de toute façon, on s'en moque. Dans le livre de Job, c'est pareil. Les trois amis qui viennent d'abord le consoler, puis qui ensuite le poussent au blasphème. Sa femme, pareil. Comment tu peux vénérer un Dieu comme ça? Dis donc, t'es vraiment... Pourquoi je t'ai épousé? Bon, enfin, dis pas ça, mais ça va bien en même. Voilà. Eh bien, en dépit de tous ces éclairages de l'Ancien Testament qui nous montrent d'où vient le péché, quelle en est la racine, le cœur de l'être humain, et même le cœur de chacun, le peuple élu avait une certaine et fâcheuse tendance à considérer que la source du mal, la cause du péché, demeurait en quelque sorte extérieure à lui. C'est quand même terrible. Il y a une espèce d'ambiguïté, ils savaient bien qu'ils étaient pécheurs, tout très bien. Ils étaient bien cool. Mais quand même, c'est toujours la même rengaine depuis Genèse 3. Hein. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est pas moi, c'est le serpent, c'est pas moi, je sais pas comment. Ouais. Bon, donc là, quand on voit le soin que mettaient les plus observants des Juifs, les pharisiens, pour ne pas les citer, à tout faire pour se tenir à l'écart des païens, des publicains, etc., pour ne pas risquer la contagion du péché, les choses sont quand même assez claires. Voilà. Et certaines assertions très claires de l'Ancien Testament auraient pourtant dû interdire ce genre de conviction. Non seulement le livre de la Genèse que je viens d'évoquer, non seulement le livre de Job, mais également qui montre en fait que chacun peut être pécheur, que le mal, la ligne entre le bien et le mal passe au cœur de chacun et non pas entre moi et les autres. Je ne suis pas rapace ni voleur comme ce publicain. Voilà, quelle horreur. Il y a des assertions supplémentaires dans l'Ancien Testament. Au livre des Proverbes, on lit ceci: le juste lui-même pèche 7 fois le jour. 7 fois, c'est évidemment un chiffre symbolique. Hein. Ça veut dire une multitude de fois. Quoi. Et puis, au psaume 51 ou 50, selon la classification, donc, le miséréré, voilà, les choses sont très claires. Le juif pieux est tenu de se considérer comme pécheur. Je suis tout entier péché, dès le sein de ma mère. Bon, alors c'est un peu c'est emphatique comme mode d'expression. Mais enfin, les pharisiens qui vous récitent ça, nuit et jour, j'allais dire, le livre des Proverbes, le juste pêche 7 fois le jour, je suis tout entier péché, né dans le péché, nanana, et en même temps, ouais, mais bon. Moins que lui quand même, tac tac, je vais me mettre à l'écart parce que je sens bien qu'il va me contagier. Voilà. Donc, et le travail de Jésus consiste à mettre chaque personne humaine, c'est vraiment une sorte de personnalisme. Alors je parle pas de l'école de philosophie qu'on a appelée personnalisme, ça veut dire autre chose, mais une sorte de focalisation qui avait déjà été faite de manière embryonnaire dans l'Ancien Testament, on en a parlé la dernière fois, un salut collectif, national, un salut personnel. Et bien Jésus va plus loin, il va dans cette ligne, mais il est jusqu'au bout, il aboutit cette tendance, puisqu'il met chaque personne humaine, qu'elle soit juive ou non, qu'elle soit prétendument juste ou non, d'où qu'elle vienne, devant ses propres responsabilités, montrant à tout être humain qu'il est foncièrement pécheur. Sympa Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était sympa. Enfin, mais remarquez la façon dont le Seigneur s'y prend. C'est quand même très beau. Et c'est là que je veux en venir vraiment, en fait. Il ne le fait pas du tout en accablant son auditoire. Il ne dit pas sale pécheur. Quand il parle à une catégorie, ou quand il s'adresse à la foule, il peut avoir des mots très durs. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça calme. Là encore, c'est le Dieu amoureux qui veut susciter une réaction. Mais arrête de, Arrête ton délire, quoi. Arrête de croire que tu es pur, que tu veux en plus me donner les leçons. Qui d'entre vous me convaincra de pécher ? Dit-il devant ses contradicteurs. Personne n'ose lui répondre hein, sur ce coup-là. On vous essaye bien de balancer quelques trucs. Tu es un glouton. Oh, bah dis donc. Oui, t'es un glouton, c'est que t'as mangé des épis de blé avec, on t'a vu, avec tes disciples. Mais ça devait être quand même navrant. Les convocations au poste. Globalement, c'est assez navrant, mais là, quand même, à l'époque, ça devait être pire encore. T'es un glouton. Ah bon ? Ouais, un ivrogne. Oui, parce que t'as mangé des épis de blé un jour de sabbat. Oh, quelle horreur. T'as mâché un peu de blé. T'es un ivrogne parce que t'as la cana ou je sais pas où. Bref. Bref, le Seigneur Jésus n'accable pas son auditoire pour faire comprendre l'universalité du péché, le fait que chaque être humain est pécheur. Il ne lui donne pas de leçons de moralinette, comme le font certains prédicateurs, comme j'espère ne pas être trop souvent. Bon. J'aurai des petits textos anonymes après. Il prêche par l'exemple, comme j'ai essayé de le montrer. Par son propre comportement, il convainc, ou du moins il devrait convaincre, que chacun, donc, que lui est pécheur. Que pas lui Jésus, mais que la personne de l'auditoire est pécheresse. Il y a, à cet égard, un propos très beau du pape Benoît XVI dans un bouquin que j'avais cité l'année dernière, mais je le redis, qui s'appelle Credo pour aujourd'hui, aux presses du Châtelet, publié en 2008. C'est vraiment un truc super. En fait, c'est une collection d'interventions, de prédications, mais aussi des morceaux de conférences qu'il a donné à droite à gauche. Comme souvent, hein, Benoît XVI, c'est souvent c'est rarement, enfin, depuis qu'il il a accédé aux soins pontificats, il n'avait plus trop le temps, donc c'est rarement, à part son Jésus de Nazareth ou quelques autres, des livres écrits in extenso. C'est des collections sur un même thème, etc. En fait, c'est le cas pour le pape François aussi, mais bon. Tous les papes, je pense, en fait. Mais bon. C'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Le pape part non pas du péché, mais du Christ. Le pape s'exprime en prédicateur, quoi. Donc il veut le salut de ceux à qui il s'adresse. Et il va partir, je le redis, non pas du péché de l'homme, mais il va partir du Christ et de la surabondance de bonté désintéressée qui émane du comportement de Jésus, qui ne peut laisser personne indifférent. Et Jésus continue toujours à avoir, quand même, à susciter l'admiration. Voilà. Et oui, parce que... le soin qu'il prend des malades, des gens qui sont mis au banc, des petits, enfin bref, je ne vous la fais pas, vous connaissez ça aussi bien que moi, au moins. Et même, et ça c'est très surprenant, le soin qu'il prend de ses ennemis, le temps qu'il passe à discuter, en vain pourtant, avec les pharisiens, les sadducéens. Et ça occupe une part non négligeable de l'Évangile. On pourrait se dire, il devrait s'appliquer la même consigne que celle qu'il donne à ses apôtres. Quand vous entrez dans un village, dites d'abord paix à cette maison, enfin dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là quelqu'un de paix, votre paix reposera sur eux, et puis allez-y, quoi. Mangez ce qu'on vous servira, blablabla, enfin bref, le boulot d'un prêtre de paroisse, quoi. Et par contre, on ne vous écoute pas, secouez la poussière de vos sandales, ça leur sera un témoignage. En gros, ne perdez pas votre temps, ne vous abîmez pas à affronter un mur. Il y a d'autres personnes à sauver, alors changez de village. Mais lui, Jésus, très souvent, ce n'est pas exactement ce qu'il fait. Je ne crois pas me tromper. Mais enfin, lui, c'est le verbe de Dieu. Hein, donc, bon. Et puis, il a une carapace divino-humaine stock. Alors que nous, malheureusement, on s'abîmerait à écouter les sottises, à affronter une résistance perpétuelle. C'est coûteux, quand même, d'aller parler du Christ, de l'Évangile, du salut, de la beauté, la vie éternelle de Dieu, et de se voir opposer des sarcasmes, de se voir sans cesse mis à l'épreuve, en vain, parce que les personnes n'iront nulle part. Bref. Donc Jésus, et puis alors, suprême délicatesse à l'égard de ses opposants, il va leur accorder le pardon du haut de la croix. Ça, c'est quand même incroyable. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Face à un tel spectacle, le pape affirme que chacun est mis en cause dans son propre égoïsme. Mais c'est très vrai. Je le cite là pour le coup, parce que j'ai assez parlé de mon propre cru, mais là c'est autre chose. Ce message lumineux, l'évangile donc, qui témoigne du comportement que je viens de décrire du Seigneur, ce message lumineux a de quoi nous tourmenter. C'est vrai. Car qui d'entre nous pourrait dire qu'il n'est jamais passé sans s'arrêter auprès de quelqu'un qui avait faim et soif? Qui d'entre nous pourrait affirmer que même le bien qu'il fait, il le commet sans la moindre arrière-pensée, j'aime bien ça. Et que même dans sa bonté manifeste envers autrui, il n'y a pas une part d'égoïsme. Ouais, c'est bien vu ça. Même quand on fait le bien. C'est ainsi que le grand message libérateur de l'amour, porté et vécu par le Christ, a tout lieu de susciter en nous une profonde inquiétude. Ben, c'est vrai. Quand on voit ce qu'est l'amour incarné, nos illusions de savoir aimer et de n'être qu'amour s'estompent. Et on se regarde en face et on se dit, en fait, je n'aime pas. Je n'aime pas assez ou j'aime mal. Et ça porte un nom. Ça s'appelle le péché. C'est ce que dit saint Augustin à longueur de quai, même le docteur de l'amour, qui nous explique que l'amour, que le péché, c'est le refus de Dieu. Il le dit dans la Cité de Dieu, il le dit dans les Confessions. C'est le péché, c'est manquer à l'amour, ne pas répondre amour pour amour, ni à l'égard de Dieu, ni à l'égard du prochain. Refuser même d'avoir l'initiative de l'amour à l'égard du prochain qui n'est pas aimable. Ça, c'est des mœurs qui ne conviennent pas. Ok, donc effectivement, quand on se retrouve devant Jésus, il y a quelque chose de très chaleureux, de très beau, de très enthousiasmant, mais aussi quelque chose de très inquiétant. Enfin, en tout cas, ça devrait l'être. Il devrait nous remettre en cause. À chaque page d'évangile, on devrait être mis en cause, même. Et je pense que c'est le cas. Et je continue avec les mots de Benoît XVI. Finalement, croire ne signifie pas autre chose que reconnaître que nous avons un déficit dans notre capacité à aimer. Croire ne signifie pas autre chose que de reconnaître humblement que nous avons un déficit. Cela veut dire ouvrir la main et se laisser combler. C'est-à-dire, en fait, devant le comportement de Jésus-Christ, tellement lumineux, tellement absolu, le vrai amour, je ne peux que me reconnaître moi-même avec mes zones d'ombre qu'on appelle le péché, c'est-à-dire les manques d'amour récurrents, le pluricotidien, et me dire, Seigneur, il va falloir m'aider. Je suis en déficit total, mais quand je vois le spectacle qui est dans l'Évangile et sur la croix, enfin, surtout sur la croix, je sais à qui me fier. Et sous sa forme la plus simple, conclut le pape Benoît XVI, la foi n'est rien d'autre que le moment précis de l'amour où nous reconnaissons que nous avons besoin, nous aussi, de recevoir le don de Dieu. Vous voyez, en fait, la magnanimité inouïe de Jésus nous met au pied du mur de notre propre insuffisance, qu'est notre péché. Et saint Paul, jusqu'à sa conversion, c'est assez significatif, saint Paul, jusqu'à sa conversion, vous savez bien, se persuadait que, parce qu'il agissait selon la loi, il va jusqu'à dire quand même qu'il est gonflé, hein. Mais on peut lui faire crédit de ça, parce qu'il dit ça sous la dictée du Saint-Esprit, et c'est un peu c'est sa confession, quoi. Il dit, quant à la loi, j'étais irréprochable. Il faut quand même oser. Bon. Il pensait donc que parce qu'il était irréprochable selon la loi, il serait sauvé. Mais il comprend à partir de sa rencontre avec le crucifié qu'en réalité, il est un énorme pécheur. Pourquoi un énorme pécheur? Parce qu'il a gravement désobéi au seul commandement qui vaille, le commandement de l'amour. À force de se focaliser sur la loi, il ne comprend plus rien à l'amour. Mais c'est évident lorsqu'on voit son comportement. Pourquoi me persécutes-tu, lui dit Jésus. Alors, en fait, effectivement, il persécute les chrétiens, ceux qui suivent la voie, comme il les appelle. Il assiste, et ça c'est dans le Nouveau Testament, vous le savez, il assiste sans rien dire, et même sans doute en encourageant ce qu'ils font, au martyr d'Étienne, le premier des martyrs, au nom de la loi. Mais quoi de commun ? Enfin, la loi de Dieu lui semble commander de ne pas aimer. C'est tout à fait surprenant. Et au contact vivifiant de la personne du Christ, eh bien, la noirceur de son péché se présente à lui avec évidence. Et vous voyez, cette noirceur, elle est, non pas atténuée, mais elle est tamisée par la bonté du Christ, en fait, qui s'adresse à lui de manière interrogative. C'est très frappant. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne lui dit pas « je vais t'écraser la tête, vas-y, mets-toi de côté, crac, comme ça. » Et pas du tout. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comme il s'était adressé à Judas en lui disant « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Et puis c'est tout. Il ne va pas l'anéantir. Et bien ça provoque une conversion efficace. Hein. Puisque Saul de Tarse, on sait ce qu'il est devenu. Peu d'entre nous arriveront jamais à dénouer la courroie de ses sandales, ça s'est déjà utilisé, mais enfin, ouais, en tout cas, ça suffit. Quoi. Voilà. Et saint Paul, et c'est très frappant, dès lors, n'aura de cesse de s'interroger dans ses lettres sur l'origine de cette dualité qu'il habite. Vous connaissez comme moi ce chapitre 7e de l'Épître aux Romains, c'est tout à fait frappant. Je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. C'est cette condition duelle que le Christ met en lumière. Qu'il ne faut pas craindre de regarder en face, en fait. C'est ce que veut nous dire saint Paul. Et après, il nous enseigne comment essayer de nous tirer de tout cela. Quoi. Il nous enseigne les lignes plus loin, la vie selon l'esprit. Mais c'est quand même très... Il en passe d'abord par le constat net, franc, de cet affrontement en lui de deux lois, la loi de l'esprit et la loi de la chair. Rien à voir avec le corps. Et il dit même qu'il est vendu au pouvoir du péché, je reprends l'expression, c'est quand même énorme. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? Et là encore... Saint Paul ne parle pas du corps, ça c'est notre mentalité issue de la conception grecque des choses, corps-âme, vous voyez, dual. Non, le corps chez Saint Paul, c'est pas l'élément corporel de sa personne, c'est toute sa personne en tant qu'elle est grevée du péché. Il a l'impression qu'il veut s'affranchir de cette capacité qu'il a à faire le mal. Vous voyez, donc, et quand il demande à Dieu d'être délivré de cette écharde dans la chair, parce qu'il l'appelle d'un autre nom, Dieu lui dit, mais non, mon bon garçon, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse qu'éclate ma puissance. Donc vous voyez, on atteint là quand même un sommet, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais de toute façon c'est des choses que vous connaissez, mais c'est bon de les reconsidérer à frais nouveaux. On est à des années-lumière, je pense que vous le percevez, de ce que nous avons vu le mois dernier, avec la conception du salut qui est quand même un peu terre à terre, il faut bien le dire. Même quand elle tend à être spirituelle, ça paraît sans issue. Quoi. Voilà. Là, écoute, regarde-moi, je suis. C'est pour ça que Jésus, que le Verbe est venu dans la chair, que le Fils s'est incarné, pour nous montrer comment on aime. Et par contre-coup, pour nous convaincre tous que nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas une catégorie qui serait sauve parce qu'elle suit à l'instruction, antécédent, pas du tout. Chaque personne est pécheresse. Mais la découverte du péché en soi n'est pas l'ultime mot, évidemment, du Christ. Je suis venu pour les pécheurs, dit-il. Donc c'est presque... Et dans l'Exultet, bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. C'est-à-dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais... Alors, l'Exultet, il n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je veux dire. On est d'accord. Mais, il pourrait. Non, il est plus tardif, mais enfin, c'est toute la logique du Nouveau Testament qui est résumée en lui. Quoi. Il y a vous voyez, ce regard objectif sur soi qui est accompagné par la bonté du Christ, par l'expression évidente, resplendissante de sa miséricorde à chaque page d'évangile, que ça n'est pas une voie sans issue, que lui, à partir du moment où on se confie à lui, le Sauveur, le Messie, le Fils de l'homme, le serviteur souffrant, celui sans lequel on ne peut rien faire, alors on a déjà vaincu le péché en fait. C'est ça le message de la fine pointe, le message de ce soir. Ouais. Non mais en fait je ne me rends pas du tout compte. Faut m'arrêter parce que je bavarde. Voilà. Et du coup je voulais, bon, mais c'est pas grave, parce que de là je voulais en venir au péché originel. Ben, donc je commencerai la prochaine fois par petite. Vous savez ce que ça veut dire petite, mais enfin, quelques considérations sur le péché originel, mais pour mieux vous montrer que, d'ailleurs il y a un lien, évidemment, j'envisage ensuite le deuxième effet du salut, le deuxième aspect du salut que le Christ est venu nous apporter, c'est la divinisation. Non, mais en fait, il y a vraiment un lien, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été... Ça caille, quand même. Donc, mes pauvres, moi, je suis debout, je bouge un peu, mais... Ah, vous avez du chauffage dans les pieds. Ah, je vois. Bon, ben, écoutez. Voilà, donc, je vous redis, donc, la prochaine fois, le côté lumineux de la force. Et puis, nous verrons également comment Jésus nous sauve. Parce que là, c'est encore assez nébuleux, quoi. Si vous voulez bien, on va finir par un « Je vous salue Marie ».
Thank you.